Je fais pas beaucoup de sponsoring sur ce podcast, mais cette fois c'est différent parce que cette fois, le sponsor, bah c'est moi. J'ai une info à vous faire passer. Ma toute nouvelle formation Stratégie Persona est disponible. Stratégie Persona, c'est la solution pour toutes les personnes qui ont du mal à trouver des clients. Toutes les personnes qui ont du mal à définir qui sera leur prochain client. Toutes les personnes qui ont du mal à trouver les mots justes pour parler à leurs clients. Parce que oui, vous savez que mettre vos clients au cœur de votre stratégie, ben c'est ce qui va vraiment faire décoller votre marque. Sauf que c'est pas si simple que ça. Alors j'ai créé tout simplement la formation la plus complète du marché sur le persona. Et je vous fais une promesse, si vous la suivez et si vous l'appliquez, dans une semaine, vous saurez exactement qui est votre client idéal et ce qu'il faut lui dire pour qu'il achète. Stratégie Persona est disponible sur mon site, lepodcastdumarketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 212. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. En marketing, il y a des stratégies gratuites qui marchent super bien et bizarrement, c'est souvent celles qui sont sous-utilisées. On doit sûrement penser que c'est un peu trop beau pour être vrai, que ça peut pas marcher si c'est gratuit. Et pourtant, certaines des meilleures stratégies, certaines des stratégies qui convertissent le mieux, qui ont le meilleur retour sur investissement, sont gratuites. Et il y en a trois auxquelles je crois dur comme fer. C'est l'inbound marketing, la création de contenu. C'est ce que je fais avec le podcast du marketing, par exemple. La deuxième, c'est l'emailing. C'est ce que je fais avec ma newsletter. Vous êtes presque 10 000 à la recevoir chaque semaine. Et puis la troisième, c'est le webinaire. Je fais une masterclass à chaque fois que j'ouvre les inscriptions à ma formation et j'utilise le webinaire pour vendre ma formation. Ces trois stratégies ne coûtent rien ou presque et elles cartonnent. Alors, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'inbound marketing et de l'emailing, mais beaucoup moins du webinaire. Et pour en parler, j'ai invité Monsieur Stratégie Zéro Budget. C'est tout simplement l'épisode qui a été le plus écouté sur le podcast du marketing en 2023. J'ai nommé Patrice Barbezier. Quand il était venu nous expliquer quelles étaient les stratégies qu'il avait mis en place pour lancer partout avec zéro budget, il nous avait évidemment parlé de webinaire, mais il avait tellement de stratégies à nous décrire qu'on n'avait pas pu rentrer dans le détail de l'organisation de son webinaire, de comment est-ce qu'il faisait. Alors, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça et qu'il fallait absolument que Patrice revienne pour tout nous dire sur les webinaires, pourquoi il n'y croyait pas, pourquoi ça marche réellement et surtout, comment est-ce qu'il faisait, comment est-ce que vous pouvez faire. Je vous propose d'accueillir tout de suite Patrice Barbezier. Bonjour Patrice, bienvenue sur le podcast du marketing.
Bonjour Estelle.
Trop contente de te retrouver Patrice. Pour celles et ceux qui te connaissent pas, t'es déjà venue sur le podcast du marketing. C'était l'épisode 167. On avait parlé de construire une stratégie marketing avec zéro budget. Et très clairement, ça avait intéressé du monde parce que c'est l'épisode qui a le plus été écouté sur toute l'année 2023. Donc évidemment, moi j'avais passé un super moment quand on avait enregistré l'épisode ensemble. Super. Mais tu vois, évidemment, je me suis dit, mais je ne peux pas ne pas réinviter Patrice. Il faut absolument qu'on fasse un autre épisode. Est-ce que ce sera l'épisode le plus écouté de 2024? Écoute, c'est le challenge, on va voir. En tout cas, on va parler d'un sujet que moi, j'aime beaucoup parce que c'est une stratégie que j'utilise énormément. Donc, tu vois, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir de l'effet ping-pong. C'est un sujet dont on me parle souvent, qui est pas ou peu maîtrisé par les gens bien souvent parce que on l'a vu, on le connaît, mais on le connaît souvent de loin. On l'a pas appris à l'école en général. Il y a pas beaucoup d'endroits où l'apprendre sur le net, je trouve. Donc, c'est un sujet ultra intéressant. On va parler de webinaire et de comment faire pour que le webinaire soit vraiment un super outil marketing. Avant que tu nous expliques tout ça, Patrice, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais ?
Oui, bien sûr. Alors déjà, merci de me recevoir encore sur le podcast. Alors, de mon côté, ça fait 10 ans que je travaille en marketing B2B, surtout sur des cibles grands comptes. Et sur ces 10 ans, j'ai fait la moitié de ce temps dans des boîtes comme Sony et Samsung. Et ensuite, l'autre moitié dans une startup qui est devenue ensuite une scale-up partout, où j'étais arrivé pour créer le marketing et voir la boîte passer de 20 à 400 personnes. Et depuis un an et demi, je me suis lancé à mon compte pour faire de l'accompagnement marketing pour des startups escalopes.
Ah bah génial, trop bien. L'idée de Partout, je reparle de Partout parce que c'était vraiment le point de départ de notre discussion de l'épisode de l'an dernier, de l'épisode 167. Partout était arrivé, c'était encore tout petit, puis tu avais développé tout le marketing. Et dans le marketing, vous pouvez écouter l'épisode si vous voulez avoir toutes les différentes strates, mais il y avait une strate notamment que tu utilisais, c'était ce fameux webinaire. Est-ce que tu peux nous en parler et nous dire finalement pourquoi est-ce que tu es allé vers cette stratégie du webinaire?
Parce qu'on me l'a imposé.
Souvent, c'est ça. On est d'accord, on n'aime pas trop cette stratégie-là quand on la regarde la première fois, non?
Non, j'y croyais pas du tout. Personnellement, j'aime pas écouter des webinaires parce que quand je les écoute, je m'ennuie. Donc, j'y croyais pas. C'était mon fondateur qui voulait absolument qu'on en fasse. Donc, je traînais des pieds, je trouvais toujours des excuses. Et au bout de 8 mois, il m'a dit, maintenant, ça suffit, on va faire un webinaire. Voilà, exactement. Et en fait, c'était un succès dès le départ.
Comment ça, un succès dès le départ? C'est-à-dire que c'est quoi un succès d'un webinaire? T'avais plein d'inscrits, t'avais plein de chiffres d'affaires, c'est quoi l'idée?
Alors non, mais même pas. On a eu 15 personnes, pour répondre à la question, on a eu 15 personnes présentes, mais on a eu tellement d'échanges avec les gens qui écoutaient, tellement de questions qui ont suivi ce webinaire, qu'on a senti beaucoup de plaisir et de satisfaction à répondre aux gens, à résoudre des problèmes en live et à voir qu'on arrivait à avoir autant d'interactions sur cette action-là et autant de satisfaction parce que les gens nous remercient en disant « Merci, on a appris beaucoup de choses, c'est super, hâte du prochain webinar ». Donc, il n'y a pas eu de rendez-vous, il n'y a pas eu de signature, il n'y a eu que 15 personnes, mais tellement de satisfaction et d'interaction qu'on s'est dit « Waouh, c'est incroyable, tout ça en une heure, donc il faut en faire ».
Il y a un potentiel. Je suis assez d'accord. Tu sais, moi, j'utilise le webinar très clairement pour vendre ma formation, hein. Et je trouve qu'il y a un truc ultra intéressant, ce que tu dis, c'est que le webinar, ça te permet de créer vraiment une relation un peu directe, alors que pourtant, t'es avec plein de gens, hein. Mais finalement, tu crées une relation directe. Et même à la rigueur, si tu vends pas, moi, tu vois, il y a plein de gens, j'ai de la chance, il y a plein de gens qui viennent à mon webinar, mais il y a très peu de gens comparativement qui achètent ma formation, c'est pas non plus, voilà. Et c'est pas grave, parce que l'idée du webinar, c'est pas nécessairement de vendre à tout le monde, t'es pas à fond. Enfin, exactement, en tout cas, je pense, si t'es les ventes, le truc marche pas. Faut que ce soit un peu authentique et que t'aies envie de partager aussi ce que t'as raconter avec des gens, c'est ça?
C'est exactement ça. Pour moi, tu vends une personnalité. Donc, enfin, quand t'es indépendant, c'est ta personnalité en tant qu'humain. Et quand t'es une boîte, c'est la personnalité, l'ADN de l'entreprise que tu vends, son expertise. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est me dire, tiens, on a une équipe commerciale, son rôle, c'est de prendre les rendez-vous et de signer. Et nous, c'est de faciliter ça. Et pour faciliter, il faut qu'on puisse apporter le plus d'expertise, le plus de conseils actionnables, que les gens passent aussi un bon moment, parce que c'est quand même important. Parce qu'on n'a pas tous envie de travailler avec une boîte ou une personne qui, ou sur l'humain, on n'a pas trop apprécié les échanges. Donc, c'était ça, c'était vraiment apporter de l'expertise et que les gens, moi, ce que je voulais, c'est qu'une fois que le webinaire termine, les gens se disent, merci, j'ai appris des choses, je vais pouvoir régler mes problèmes de mon côté et si besoin, je vais faire appel à vos services pour aller encore plus loin.
C'est intéressant, ça. Mais tu vois, peut-être j'ai besoin qu'on rentre dans le détail de, finalement, qu'est-ce que c'est un webinaire, qu'est-ce qu'on met dedans? Parce qu'en t'écoutant, je me dis, attends, en fait, il y a peut-être des gens qui se disent, ouais, un webinaire, je vois vaguement le truc, mais finalement, je sais pas bien quel est l'objectif, quel est le pourquoi du comment et est-ce qu'on vient chercher. Est-ce que tu peux juste me décrire, toi, comment tu construisais tes webinaires, quel était l'objectif derrière et comment ça s'articulait peut-être aussi avec les équipes de sales?
Oui, tout à fait. Alors, c'est que les objectifs, il y en a plein. Des objectifs plutôt de prospection pour in fine réussir à signer rapidement. Des objectifs auprès des clients pour leur proposer plus de produits. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'onboarding, donc quand on reçoit des nouveaux clients, qu'on veut réussir à leur faire bien utiliser la solution qu'ils ont achetée, donc on fait un peu de formation. Mm-hmm. Donc il y a plein d'objectifs. Ouais. Ça c'est vrai. Nous, on était très concentrés sur un objectif in fine commercial, donc réussir à vendre plus à des clients ou à des prospects. Mais à contrario, c'était pas sur le fond, ce n'était pas commercial. Moi, je voulais m'assurer de partir des plus grandes problématiques du marché. Ok, c'est qu'est-ce qui est compliqué pour eux dans leur quotidien, et prendre cette thématique-là, essayer d'y répondre avec un système d'entonnoir, donc partir d'un contexte fort et ensuite aller sur le plus précis avec des cas clients pour qu'ils puissent se projeter et donner différents cas de différents secteurs pour que chacun puisse se projeter. Et voilà, mais sans jamais dire bah voilà ce qu'on fait chez Partout, voilà ce qu'on peut vous vendre, voilà le prix de nos produits, voilà à quoi ressemble l'interface. On prenait littéralement 30 secondes à la fin du webinar, c'était à la fin du webinar qu'on disait pour info, voilà ce qu'on fait chez Partout, on fait tac 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 tac. Merci. Maintenant prenons le temps pour les questions questions-réponses.
C'est super intéressant, c'est-à-dire que alors il y a plein de webinars différents, il y a plein de voilà, je le dis pour les gens qui nous écoutent, il y a plein de modèles différents, mais là toi ton modèle, c'était de dire quand bien même ton objectif c'était quand même de vendre in fine, ton modèle c'était de dire je vais délivrer de la valeur pour c'est que ça. Dans leur tête, ils se disent s'ils sont prêts, si c'est le bon moment pour eux, ils se disent non mais attends, un, c'est eux les experts du truc. J'imagine que c'est ça finalement, c'est de positionner. Dès lors que tu donnes de la valeur, tu positionnes en disant la personne qui s'y connaît, c'est la personne qui m'a déjà aidé, parce que c'est exactement ça inconsciemment. Donc c'est eux que je vais aller voir si j'ai un besoin. Donc finalement, ce que tu dis, c'est que il y avait pendant ce webinaire, il y avait pas vraiment besoin de vente. C'était pas, quand bien même c'est l'objectif in fine, il y avait pas besoin de passer par la case vente qui fait souvent un petit peu peur finalement.
C'est ça, et d'autant plus que nous c'est la tactique qu'on a mise en place, c'est se dire tiens, le marketing pose cette pierre-là et les sales arrivent derrière pour dire bah voilà, vous avez écouté ce webinar, est-ce que ça vous a plu, comment je peux vous aider, et tout de suite ça met un terrain de confiance beaucoup plus fort, les prospects se livrent plus et ils sentent qu'il y a cet accompagnement plus important que juste on veut vous vendre quelque chose.
Ouais, finalement c'est un peu un truc en deux étapes ton histoire, c'est-à-dire que t'installes la confiance, t'installes la crédibilité, t'installes la confiance sur le webinaire, et après c'est l'équipe sales qui prend le relais dans un second temps. Tu me disais même que c'est intéressant, ils arrivaient après le webinar, mais ils pouvaient aussi arriver avant le webinar.
Exactement. On a l'ADN de Partout, c'est de jamais laisser passer une opportunité.
Ah.
C'est-à-dire que lorsqu'une personne s'inscrit à un webinar, on estime que avec beaucoup de, avec une approche douce, on peut se permettre d'appeler cette personne le lendemain de son inscription pour lui dire « Bonjour madame, vous êtes inscrite à ce webinar, merci beaucoup. Est-ce que je peux vous demander ce que vous cherchez avec ce webinar ?» Ah ok, parce que vos enjeux c'est ça, ça, ça et ça. Ah bah c'est rigolo parce que nous aussi, on bosse avec un tel et un tel, ils ont les mêmes enjeux et voilà ce qu'on a mis en place. Vous voulez pas qu'on en parle un peu plus profondément sur un rendez-vous ? Et en fait, on prenait d'ailleurs beaucoup plus de rendez-vous avec cette démarche-là avant le webinar qu'après. Alors, je dis pas que en prendre après, ça marche pas. Mais en tout cas, nous, on se disait, bah, tiens, quelqu'un s'est inscrit, donc quelqu'un a montré l'intérêt. Pourquoi attendre deux semaines, trois semaines, donc un mois, le temps du webinar pour appeler? C'est dommage.
Ouais, parce que, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Souvent, quand on s'inscrit sur un webinar, c'est parce qu'il y a un truc qui nous a accroché. On se dit, non, mais attends, il y a une douleur, il y a un truc, ils vont me donner la réponse et ça m'intéresse. Et puis, il se passe un temps qui est plus ou moins long selon l'organisation. Et bien souvent, le soufflet retombe. Ce qui fait que quand on a des inscrits, tout le monde vient pas. Et c'est logique parce que la vie aussi fait que. Donc là, ton idée, c'est de dire, là, à ce moment-là, ils nous ont dit qu'ils sont intéressés. N'attendons pas et discutons avec eux. Mais j'aime beaucoup comment tu fais. C'est-à-dire que tu l'appelles pas en lui disant, Madame Machin, vous avez dit que vous vouliez vous inscrire au webinar. Ça tombe bien. J'ai une solution à vous proposer. Ça coûte ta, et voilà, machin. Quel est votre enjeu? Ah, bah, j'ai un client qui a le même enjeu. Est-ce que vous voulez qu'on en discute? Donc, c'est encore du partage de connaissances, finalement. T'es pas encore dans la vente.
C'est exactement ça. Et c'était aussi la méthode commerciale, côté Partout, de faire beaucoup ce qu'on appelle, donc, en anglais, du soft selling, donc, de la vente douce et de la vente aussi consultative. La vente consultative, c'est de prendre un rôle, on va écouter les besoins et on va proposer ce qui est en adéquation. Et moi, j'ai un exemple, je fais juste un micro aparté parce que j'avais adoré. D'ailleurs, ce commercial s'appelle Clément Picard, si tu nous écoutes. J'avais adoré parce qu'il était en discussion. Et à un moment, j'entends Clément dire, non, monsieur, là, c'est, je vous déconseille de prendre tous nos produits d'un coup.
Ouais.
Je vous déconseille. Qui, dans ce monde, refuse de vendre autant et donc de multiplier par 4 sa signature pour dire, je vous conseille, monsieur, de prendre un produit, de bien le mettre en place. Nous, on a un suivi sur 6 mois. sur cette phase d'apprentissage. Et au bout de 6 mois, on se rappelle et vous me dites si vous voulez prendre un deuxième produit. Et ainsi de suite jusqu'au, on avait 4-5 produits à l'époque. J'avais adoré.
Mais il a raison, hein. Moi, je suis totalement vendue à ça. C'est-à-dire que vendre tout, bah oui, t'as fait ton chiffre, t'es contente, t'as tes objectifs. Sauf que si ton intérêt, ton focus, c'est la satisfaction client et le fait que le client avance, bah tu le sais que si tu lui vends tout, il va couler sous le truc, il va finalement mettre rien en place parce que c'est
trop d'un coup. Exactement. Il sera déçu et tout.
Bah voilà. Bah oui, bien sûr. Et ça, c'est intéressant parce que tu vois, typiquement, quand tu parlais dans le webinaire de montrer aussi qui est l'entreprise ou qui est l'indépendant, mais peu importe, hein, ça se sent ce genre de truc. Et pour le coup, je pense que ça transparaît assez naturellement quand tu fais un webinaire. Tu vois bien quel genre de boîte c'est très rapidement. Et j'ai pas de, y a pas de jugement, hein. Y a besoin de tout type de boîte. Mais tu sens tu sens un petit peu l'éthique, la façon de travailler de l'entreprise. Donc, rien qu'en ça, c'est déjà de la communication et c'est déjà finalement un gros pas de vente.
Bah, je trouve. Et nous, c'est vrai que ça fonctionnait beaucoup et c'est pour ça que je parlais de succès tout à l'heure. C'est que le succès, c'est, moi, j'adorais, par exemple, quand je leur mettais un petit sondage à la fin du webinar pour leur demander s'ils avaient appris des choses pendant ce webinar. Et quand t'as 80% des gens qui te disent, j'ai beaucoup appris, 19% qui te dit j'ai un peu appris et 1% qui dit j'ai pas appris, je suis déjà expert, parce que forcément on peut pas toujours apprendre à tout le monde, et tu dis mais c'est énorme, 80 plus 19, enfin moi je suis, enfin c'est incroyable comme résultat, et tu t'attends jamais à ça, tu te dis pas que tu atteindras ces chiffres. Donc déjà ça c'est assez fou, et après bah le succès c'est aussi quand au niveau commercial bah tu vois que tu arrives à prendre plein de rendez-vous, que tu arrives à accélérer des négociations pour obtenir des signatures. Et ça, c'est fabuleux. Et en fait, le webinar, c'était chez Partout l'action business la plus forte.
Ah ouais. C'est sur toutes les stratégies que tu as mis en place, c'est celle qui était quoi? Quand tu dis la plus forte, ça veut dire quoi? Ça veut dire la plus rentable? Ça veut dire qui fait le plus de chiffre d'affaires? C'est quoi?
C'était, c'était tout, en fait. c'était l'action qui générait pour nous le plus de nouveaux contacts. Ça m'a surpris. Parce que, en communiquant sur LinkedIn, parce qu'en invitant des gens qui transfèrent à leurs équipes, c'est simple. 50, quand on avait 100 inscrits, 50% étaient des nouveaux contacts et des contacts intéressants. Donc ça, c'était super. C'était la deuxième action qui permettait aux sales de prendre le plus de rendez-vous.
OK.
Et c'était l'action, et ça, je m'y attendais pas, c'était l'action marketing qui accélérait le plus les signatures, qui influençait le plus ces signatures. Ça, c'était les sales qui venaient me voir et qui me disaient, Patrice, grâce, il y a Toyota qui a écouté ce webinar. Ils étaient encore en hésitation avec une autre boîte et c'est bon. C'était un peu le dernier coup qui leur a fait dire, OK, c'est bien avec Partout que j'ai envie de bosser. Et ça m'a surpris. Et vu qu'en plus, pour finir sur l'histoire du ROI, vu que c'est une action qui coûte pas cher, nous, pendant longtemps, on payait 90€ par mois pour un webinar et pas tous les mois parce qu'on faisait pas des webinars tous les mois. Donc, quand tu payes 90€ une fois par trimestre et qu'à la fin, tu as tous les résultats que je t'ai donnés là, sachant que nous, on était sur de la vente grand compte avec des paniers moyens à 15-20 000€, bah, je te laisse faire le calcul derrière. C'était énorme.
C'est 90€ bien investis, a priori.
Très, très, très bien investi.
Même en termes de temps, finalement, parce que tu le dis, le webinaire, c'est quoi? C'est 1 heure, 2 heures, quelque chose comme ça, peut-être, de ton temps?
Alors, le webinaire en lui-même, effectivement, c'était 1 heure. En termes de préparation, là, on passait beaucoup de temps, mais après, le but, c'était de le refaire plusieurs fois, évidemment. Mais la première fois, il prend quand même du temps. Et ensuite, la session en elle-même, oui, c'était 1 heure.
Ouais, donc 1 heure très, très bien investie. Sur la préparation en amont, et tu parlais du sondage, notamment, je trouve ça très intelligent. Est-ce que je peux te demander, dans la structure, qu'est-ce que tu mets dans un webinar? Parce que là, tu vois, je pense que tu as plein de gens qui se disent, attends, mais trop bien son truc, écoute, ça coûte 90€ par trimestre, je vais closer tout le monde, j'y vais, évidemment. Qu'est-ce qu'on met dans un webinar? De façon, alors, c'est difficile de dire ça de façon générale, mais si tu pouvais faire une espèce de construction type de votre webinar, qu'est-ce qu'on met dedans?
Alors, ce qu'on met dedans, déjà, on définit bien la problématique. Donc, la problématique, c'est ces fameux points de frustration, ces phases compliquées que peut vivre la douleur de ton prospect. Voilà, donc, tu prends une douleur. Pas besoin d'en faire 4 en une. T'en prends une. Et ensuite, ce qui marche bien, c'est de redonner un peu de contexte. Le contexte pour dire, vous n'êtes pas seul. Ça touche beaucoup d'entreprises. Voilà des chiffres. voilà des tendances aussi de ce qui est en train de se passer. Et c'est de donner de plus en plus de cas concrets. Donc nous, on rentrait assez vite dans les cas concrets parce que le contexte, on prenait 5 minutes, voilà ce qui se passe, voilà les tendances, voilà ce qu'on entend dans le marché, voilà ce qui se passe dans d'autres pays, nanana, nanana. Voilà, je trouve que c'est toujours intéressant, mais c'est pas là où on voulait passer le plus de temps. Et ensuite, c'était OK, maintenant, rentrons dans des cas concrets. Comment on vient répondre à cette douleur? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Parfois, on avait 3 étapes, parfois 6, parfois, voilà, bref. Donc, on vient définir les grandes étapes pour répondre à cette douleur.
Donc, très concret. Très
concret. Et sur chacune de ces étapes, voilà, c'était très actionnable. C'est cette étape-là, voilà, j'ai n'importe quoi, comment s'organiser, comment motiver les équipes, quel outil prendre pour le mettre en place, toutes les best practices et qu'est-ce qu'on peut en attendre derrière. Et surtout, c'était toujours des parallèles avec des entreprises qui étaient donc clientes de partout et qu'on citait à l'oral. De dire, bah voilà, sur cette étape-là, voilà comment s'y est pris le roi Merlin. L'étape suivante, voilà comment a fait Toyota. Toyota était dans une organisation décentralisée, voilà comment ils font. Ah bah eux, c'était plus centralisé, voilà ce qu'ils ont mis en place. Eux, ils avaient une petite équipe marketing, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et donc, à chaque fois, on donnait des entreprises de différents secteurs, mais aussi qui avaient des fonctionnements un peu différents pour être sûr que les 10, 50 ou 300 personnes qui écoutent se retrouvent à chaque fois dans ces éléments-là et qu'ils disent pas « Oh, mais ils citent que des grands groupes. Moi, je suis pas un grand groupe. Je suis une petite chaîne de vêtements de 10 établissements et je suis pas un groupe immense. » Donc, on donnait à chaque fois différents types de boîtes. Et à la fin, bien évidemment, on donnait des chiffres de ROI pour dire « Voilà ce qu'il faut mesurer. Voilà ce que vous pouvez espérer parce que c'est ce qu'on a vu chez ces boîtes-là. » Et la dernière slide, c'était la fameuse slide où on se présentait pour dire bah voilà, on est en train de clôturer le webinaire. Voilà qui on est chez partout, voilà ce qu'on fait. On prenait 30 secondes à 1 minute grand maximum et tout ça prenait 20 minutes cette prise de parole, okay. 20 minutes.
Ah et oui, ensuite, donc c'est rapide. 40,
ouais, ça c'était ma conviction parce que j'ai un temps d'attention faible et que quand moi j'écoute des prises de parole, je me suis rendu compte une fois, c'était la BPI qui avait organisé ça, des prises de parole de 15-20 minutes. Et je me suis dit, tiens, c'est génial, c'est la première fois que j'arrive à tout écouter du début à la fin et que je décroche pas. Et je trouvais que 20 minutes, c'est bien pour pas décrocher. Et surtout, j'estime que même si on n'est pas excellent à l'oral ou qu'on n'est pas un bon orateur ou oratrice, 20 minutes, ça passe. Alors que 50 minutes, une heure, les gens, tu les lasses et tu les perds.
Ça peut faire peur à la personne qui doit faire le webinaire. Et effectivement,
c'est ça.
Tu peux les lasser, tu peux les perdre. Et puis, tu as un autre truc, c'est que si on est sur du B2B, en l'occurrence, c'est le cas, ils ont peut-être d'autres trucs à faire, quoi. On a tous des journées quand même très, très chargées pour réussir à toper une heure et demie, 2 heures de, je sais pas, du directeur marketing de Toyota. Faut quand même y aller. 20 minutes, tu as peut-être plus de chances de pouvoir l'intéresser ou d'intéresser son chef de produit, peu importe. Mais c'est plus facile à caser, finalement.
C'est plus facile. Ouais, exactement. Et c'est vrai que moi, ce que j'entends le plus, c'est trop cool. J'ai une heure devant moi. J'ai plein de gens vachement intéressants qui m'écoutent. Je vais utiliser le maximum de ce temps pour en dire le plus possible. Et ça, c'est la plus grosse erreur.
Ouais. Du coup, ce que tu me disais, c'est qu'en fait, tu fais 20 minutes de webinaire, mais ça s'arrête pas là. Il y a une grosse partie derrière. Qu'est-ce que tu proposes, toi, juste derrière le webinaire?
Un karaoké.
Bonne idée.
Je propose une grosse session de questions-réponses parce que j'estime que faire une présentation pour montrer l'expertise, tout le monde peut le faire. Tout le monde.
Ouais.
Un petit concurrent comme un très gros concurrent, j'estime que la connaissance, on l'a tous. En revanche, quand t'es mis sur le grill, que les gens te mettent dans leur situation et qu'il faut y répondre, bah là, tu peux plus te cacher. Donc, c'est là où, ils vont voir si t'es bon. Et de deux, et c'est moi là ce qui m'intéressait, c'est que tu viens débloquer des situations. Les gens, ils viennent pour apprendre des choses. Et s'ils peuvent en plus avoir des réponses très précises à leurs problèmes et qu'ils peuvent raccrocher en se disant « Super, voilà ce que je vais faire. Merci, merci partout. » Bah là, c'est fabuleux.
Ouais, t'as tout gagné. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est bien de donner de la valeur. Il faut donner de la valeur. C'est bien de construire un webinaire, une présentation et de s'installer, montrer que ce qu'on sait faire. Mais en fait, le mieux, c'est surtout de répondre aux questions directes des personnes parce que c'est ça qui va réellement les intéresser. Et finalement, c'est ça qui va réellement les accrocher aussi. C'est pour ça qu'ils vont rester. Quand bien même, là, c'est un peu moi qui rajoute, mais quand bien même, c'est pas leur question. Moi, j'ai beaucoup de gens qui restent. Je fais des questions-réponses, moi, de 1 heure en général derrière webinaire. Alors, je fais 1 heure de présentation, 1 heure de questions-réponses, moi. Mais tu vois, pendant les questions-réponses, ce que je vois, c'est que finalement, t'as plein de gens qui restent, mais qui ne posent pas nécessairement de questions ou qui ont posé une question. Ouais. Mais finalement, les questions des autres sont souvent vachement intéressantes parce que
exactement.
On rattrape aussi par... Voilà, on projette des choses sur les questions des autres souvent, non ?
Non, mais t'as raison. Les gens apprennent plein de choses grâce à ces questions. Et de deux, sans surprise, des questions amènent d'autres questions. Donc, c'est un cercle vertueux que je trouve phénoménal.
Trop bien, trop bien. Sur la présentation, tu vas me dire si tu es d'accord. Moi, il y a quand même... Alors, je fais des présentations, des webinaires plus longs que toi. Mais il y a quand même quelque chose, je trouve, qui est important. C'est de réussir à garder les gens, justement, un petit peu alertes. Parce qu'on sait, hein, un webinaire, tu es sur Internet. Donc, la personne est devant son ordinateur. Et si elle est comme moi, elle a probablement 15 onglets ouverts sur Internet, plus PowerPoint, plus Word, plus machin, plus WhatsApp à côté, et les enfants, si on est à la maison, qui peuvent être dans le coin. Donc, il y a vraiment plein d'occasions d'aller faire autre chose. On va voir si on a la même stratégie. Est-ce que tu avais une stratégie pendant tes... Alors, ça durait que 20 minutes, mais est-ce que tu avais une stratégie pour les garder un petit peu avec toi ?
Ouais, tout à fait. Déjà, la toute première, c'est le... Moi, j'aime bien commencer par une petite blague, enfin un petit quelque chose pour m'assurer de leur qu'on appelle ça, qu'ils soient pas captifs, mais qu'ils soient attentifs. Voilà, qu'ils soient attentifs. Donc moi, je faisais toujours la petite blague et j'avais toujours la même question. Je demandais aux gens quelle météo, quel temps ils avaient chez eux.
Ah.
Et je rebondissais dessus et je fais voilà. Michel, il fait beau, c'est super, vous êtes où? Ah, vous êtes à Nice, trop bien. Ah, bidule, vous êtes de la neige, c'est marrant, vous êtes où? Et ça, c'est bête, mais ça les fait vachement réagir et ça les rend attentifs assez vite. Ça, je trouvais que c'était bien. Et ensuite, je faisais beaucoup j'ai questionné beaucoup. Pour moi, il faut oublier que t'as 10, 100 ou 300 personnes qui t'écoutent. La beauté du webinaire, c'est que les gens, en tout cas moi, je les vois pas, j'ai pas leur tête à côté, donc tu les vois pas. Donc tu peux te permettre de les questionner comme si t'avais une personne et les faire réagir sur le chat. Donc moi, je leur disais parfois, tenez là, ce que je viens de dire à l'instant, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous pouvez mettre sur le chat oui ou non? Et voilà, tu fais, ah ok, bah visiblement les gens ils sont pas trop d'accord. Ok, pourquoi? Mettez-moi une petite question. Donc les faire réagir, ça c'était vachement bien. Les sondages, ça j'étais fan. J'en faisais généralement 2, max 3 dans les 20 minutes. Ça, c'est bien. Les sondages pour avoir un peu des résultats, c'est-à-dire, ah bah tiens, c'est rigolo, vous étiez 80% à plutôt opter pour la réponse 1. Ah bah ça me surprend un peu. Bah ok, je vais un peu adapter le reste de mon discours parce que visiblement, il y a besoin d'un peu plus expliquer sur cet angle-là. Et je trouve que les sondages, voilà, un pour les réveiller. Et même 2 pour nous adapter le reste du discours. Je trouve ça génial.
Super intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi.
Tu fais ça aussi ?
Ouais, moi alors les sondages, je les utilise pas beaucoup, mais en t'écoutant, je me dis que c'est effectivement une super bonne idée. Mais j'utilise beaucoup les questions. C'est-à-dire que je vais pas dérouler tout d'un coup parce que quand bien même t'essayes de faire une présentation intéressante, c'est logique. Si tu fais que dérouler, il y a un moment donné où tu deviens un ronron dans les oreilles des personnes, ils font autre chose et pouf, ils sont partis dans le truc. Alors que quand tu leur poses une question en direct, ça réveille le cerveau en se disant, même si c'est pas forcément une question compliquée, hein, mais et vous faites quoi? Dites-moi dans le chat ceci, cela. D'une part, ça les réveille, donc t'es sûr qu'ils t'écoutent et qu'ils sont avec toi. D'autre part, je trouve que ça leur donne l'autorisation d'écrire dans le chat. Et moi, ce que je vois, c'est qu'une fois que j'ai commencé à faire ça, les gens commencent à échanger entre eux. Ah oui, mais attends, j'ai pas compris, là, elle a parlé d'un truc, c'était
exactement
où ce truc-là? Et ils se répondent. Et une fois qu'il y a ça, c'est gagné. Quand les gens commencent à échanger entre eux, c'est que t'as un intérêt qui est véritablement authentique et t'es plus que dans le, tu sais, dans le vertical, je te balance ce que j'ai à te raconter et puis après, je vais te vendre un truc. Il y a quelque chose de plus humain qui se crée. Je trouve que c'est une vraie clé intéressante.
C'est ça. Et moi, je l'ai forcé à répondre. Quand j'avais que 10% des répondants, je leur disais, moi,
M'arrête.
ça me va pas. Continuez à répondre.
T'as raison. Non, mais t'as raison. Il faut, je pense, absolument, d'autant plus du fait que, un, on est en digital, que deux, ils peuvent pas parler. On n'est pas sur un Zoom nécessairement où ils peuvent répondre directement à l'oral. Donc, il faut leur montrer qu'ils existent parce que sinon, c'est trop facile d'aller changer d'onglet et d'aller faire autre chose et puis d'aller suivre Josiane qui va à la machine à café parce que voilà, on le sait, on a
Ah
mille
ben
autres
oui,
choses à faire. Donc,
c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile d'être déconcentré. Et la chose qu'on a fini par faire un peu sur le tard, c'est prendre les questions au fil de l'eau. Avant, on séparait 20
Ah
minutes de
ouais.
présentation, puis la session de questions-réponses. Et en fait, prendre les questions au fil de l'eau,
C'est intéressant.
j'ai trouvé ça mieux. Après, ça dépend quand tu es dans le cadre un peu d'une formation. J'ai envie de dire, vaut mieux faire, voilà, tes 20 minutes où t'as ton heure d'un coup et tes questions-réponses derrière. Mais là, dans ce but que moi je voyais un peu comme un échange, c'était bien parce que, un, je trouve que t'évites, parce qu'il y a des gens parfois quand ils ont une question, ils restent un peu
Ouais.
bloqués là-dessus, ils n'arrivent plus à écouter la suite. Donc un, tu débloques des situations. De deux, potentiellement, tu réponds à des problèmes qu'il y avait d'autres gens qui n'osaient pas poser la question. Et de deux, bah voilà, comme tout dans la vie. Une question amène d'autres questions, donc ça c'était chouette. Et enfin, ça vient un peu aussi casser le rythme et faire voilà plus une heure presque d'échange que ce côté un peu
Ouais.
siloté.
Oui, c'est peut-être plus facile aussi, effectivement, d'écouter un échange, une discussion, quelqu'un qui répond directement aux questions, qu'une simple présentation qui est juste, en fait, dans un sens, quand bien même on s'arrête pour dire, et vous, qu'en pensez-vous, machin, etc. Si on peut répondre aux questions directement, c'est intéressant. Le bémol que je mettrais, parce que j'utilise pas forcément de la même façon, moi, je vends pendant le webinaire, c'est intéressant de garder les questions à la fin, parce que ça garde un petit peu les gens captifs. Ils ont une question, ils se disent, attends, faut que je reste. Donc, la personne va rester pendant le moment qui est pas forcément très long, mais le moment où tu vas présenter ton offre, il sait que la réponse à sa question vient après, donc c'est un peu un biais assez facile, mais ça permet de garder les gens captifs. Donc tout dépend comment on construit la chose, mais c'est intéressant effectivement de se dire si on n'a pas besoin de les garder nécessairement absolument jusqu'à la fin, effectivement de répondre aux questions au fil de l'eau. Faut être bien organisé quand même, hein, parce qu'il faut réussir à jongler entre
C'est
ta
vrai.
présentation, les questions qui viennent, etc. Toi, tu le faisais seul ou t'avais quelqu'un en back-office qui t'envoyait les questions, qui disait, tiens, là, il y a une question intéressante, ou tu le gérais tout seul?
Alors non, jamais seul et toujours en duo, mais en duo de speaker.
Ah, intéressant. Ouais,
Duo
donc
de
quand
speaker.
il y en a un qui parle, l'autre, il peut regarder aussi les questions qu'il
C'est
y a,
ça.
etc.
C'est
Intéressant.
ça. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on ne voulait pas faire ça parce que ça vient aussi casser un rythme. Ça vient aussi te déconcentrer quand tu dois reprendre ton speech. Ok, j'en étais où? Qu'est-ce que je racontais? Donc voilà, faut faire un peu attention. Mais en tout cas, nous, vu qu'on était en duo de speakers, parce que j'estime que c'est plus dynamique et qu'on avait la chance aussi de pouvoir être, d'être, enfin, avoir des duos, ça fait que ouais, il y en a un qui regarde les questions et qui dit, ah, attends, Sébastien, on a machin ou machine qui nous pose telle question, c'est intéressant. Est-ce que je peux te la poser?
Trop bien, trop bien. Écoute, j'ai une dernière question presque qui me vient parce que là, on a expliqué ce qu'il y avait dans le webinaire, comment tu fais, comment t'organises les choses selon un petit peu ta façon de faire. Mais pardon, comment je fais pour qu'il y ait des gens qui viennent au webinaire?
C'est pas mal de leviers activés. Le premier, c'est que nous, on communiquait toujours un mois avant. C'est
Ok.
pas trop la norme. Moi, j'entends beaucoup de gens qui communiquent 10 jours avant. Nous, on le faisait un mois avant parce que j'aime bien me laisser du temps pour pouvoir faire des relances.
Ok.
Donc ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est que je communiquais donc sur ma base, bien sûr, les gens que j'avais dans mon CRM. On publiait beaucoup sur LinkedIn et on utilisait beaucoup les commerciaux et ce qu'on appelle les customer success, donc les chargés des clients, pour à chaque fois mentionner le webinar dès qu'ils étaient au téléphone ou en mail avec leurs clients ou leurs prospects. Donc déjà ça, pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pas juste le marketing qu'il doit faire, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc ça, c'est une première chose. Le fait d'avoir un mois d'anticipation et faire des relances, les relances, ça amène beaucoup de gens. Les relances où tu dis bonjour madame, juste un rappel pour vous dire qu'il y a un webinaire dans 2 semaines, qu'on a déjà 50 inscrits, notamment des gens de chez Toyota, Leroy Merlin, Carrefour. La relance qui cite des boîtes comme ça, t'es sûr que là tu fais un pic énorme d'inscrits.
Il y a un FOMO, quoi. C'est, ah, voilà, ah, s'il y a, ah, webinaire, ouais, s'il y a Toyota, machin, ou mon concurrent, ou le grand, voilà, ça, il faut que j'y sois aussi. C'est que c'est intéressant.
Ah, le FOMO, il marche à tous les coups, il marche à tous les coups, celui-là. Il y a un mail de relance qui est pas mal aussi, qui marche bien. C'est un peu quand vraiment la personne te répond pas. Et de juste dire, écoutez, j'ai l'impression que vous êtes très occupé et que vous ne serez pas disponible pour ce webinar. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le replay? Et là, tu déclenches beaucoup de réponses. Ah oui, effectivement, c'est vrai que je ne serai pas dispo. Oui, le replay, je veux bien l'avoir. Et ça, c'est bien. C'est des gens qui montrent un intérêt. Et enfin, la dernière chose qu'on faisait rarement, je pense, une à deux fois par an sur des webinars où on voulait vraiment beaucoup, beaucoup de gens, on se mettait des challenges. On se disait, tiens, ce webinar, explosons les records.
Ah, en interne.
Ouais, en interne. Et visons 600 inscrits.
OK.
Et là, on se mettait des challenges avec des récompenses où les sales ou les personnes qui avaient apporté le plus d'inscrits, bah, le top 3 avait par exemple une bouteille de champagne ou une boîte de chocolat. On arrivait toujours à obtenir ces records grâce à ça.
Quand il y a du chocolat ou du champagne à la clé, évidemment, ça marche à tous les coups. Mais tu vois, ça, je trouve, c'est intéressant parce que ça marche aussi quand on est seul. En fait, c'est qu'une question de cliquer le mindset, c'est de se dire, bon, attends,
c'est ça.
Là, je veux y aller. Et là, je me mets cet objectif et je me mets un chiffre. On s'en fout, en fait, du chiffre, finalement. Mais oui, c'est juste, on se met une vision pour se dire, bah, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour le faire. Et si on le fait pas, ben en fait, on met pas en place ces petits trucs en plus qui vont nous apporter les inscrits. Et oui, c'est du boulot d'aller chercher les inscrits. Il faut aller les chercher absolument, parce qu'un webinar avec une personne qui regarde le webinar, évidemment, ça va avoir beaucoup moins de d'impact. Donc c'est un peu le gros. Enfin, je dirais que c'est presque 50%. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est presque 50% du job du webinar,
ah,
c'est
oui,
de créer, ouais, de l'acquisition, de faire venir les gens.
C'est ça, exactement. Et faut toujours, entre guillemets, jamais se satisfaire, donc toujours continuer à communiquer, même la veille, on peut continuer à communiquer, il y a pas de souci. Et je voudrais juste finir sur cette note là si par hasard vous vivez comme moi une situation avec juste deux inscrits, bah c'est pas grave, gardez-le ce webinar. Moi, j'avais envoyé un petit mail pour dire, vous êtes que deux, voulez-vous qu'on le garde? Les deux m'ont dit oui. Les deux derrière, ça a amené d'ailleurs plus une discussion qu'un webinar, donc c'était très drôle, et ça a débouché sur deux rendez-vous et une signature, et une grosse signature. Donc voilà,
il
faut toujours
garder,
on ne sait pas ce qui peut se passer.
Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne faut pas se dire, non mais moi, je n'ai pas une grosse audience, je ne vais avoir personne, ça va être ridicule, etc. Pas du tout, au contraire, c'est les meilleurs webinars. Ceux où il n'y a
c'est
pas grand monde. C'est comme, finalement, c'est une session de coaching, de conseil, on appelle ça comme
ouais,
on veut. Mais
ça,
d'un coup, gratos, ils ont une valeur qui est décuplée. Donc au contraire, il faut les garder,
exactement,
donner,
voilà,
un max. Et
vous
ne
serez
ça,
pas ridicule,
il
faut le faire.
Ah ouais, complètement. Et au pire, s'il n'y a pas de signature, vous aurez appris des trucs sur comment construire
toujours
votre webinar, ce qu'attendent les gens, etc. Donc, il faut absolument, faut jamais, à mon avis, annuler un webinar en disant « Non, mais attends, ça vaut pas mon temps, c'est bon. » Bon, non, on est parti,
ouais,
pour faire un webinar, on le fait, point.
Exactement. Ou pensez que c'est encore trop tôt pour le faire parce qu'on a pas assez de gens dans le réseau. Non, commencez à le faire, il faut y aller.
Il faut y aller, de toute façon, c'est souvent ça. Il faut y aller. Bon, alors attends, je vais essayer de résumer. J'ai essayé de prendre des notes, mais on est parti un peu dans tous les sens sur notre webinaire. Mais ce que tu nous dis, en gros, c'est que, un, le webinaire, faut pas trop se poser de questions. Toi, tu voulais pas y aller. C'est ton boss à l'époque chez Partout qui t'a dit, non, mais attends, go, je veux qu'on teste cette stratégie du webinaire. Et assez rapidement, tu t'es rendu compte que le truc était génial parce que c'était ultra rentable. Finalement, ça prenait pas tant de temps que ça. En tout cas, une fois que tu avais construit le webinaire et que ça créait vraiment, outre la vente, parce que tu avais un objectif final de vente, ça créait la relation avec la marque. Et finalement, c'est peut-être le truc le plus dur à faire, je pense, moi, pour une marque, c'est de créer cette vraie relation, qu'on soit indépendant ou qu'on soit une grosse boîte. La personne qui va venir acheter notre produit, notre service, ce dont elle a besoin, c'est de connaître la marque et d'avoir cette relation. Et finalement, le webinaire, il te permettait de construire ce lien vraiment authentique et naturel avec les personnes. Ce que tu me dis aussi, c'est que ton webinaire, t'as pas forcément besoin d'attendre le webinar pour que les sales, que l'équipe de vente viennent contacter les personnes. Et ça m'intéresse vachement parce que je l'avais jamais entendu, mais je trouve ça complètement logique. C'est-à-dire qu'une fois que la personne s'est inscrite au webinar, ça veut dire qu'elle a une douleur, qu'elle a un intérêt. C'est le moment d'aller discuter avec elle. Pas forcément de vendre tout de suite, mais d'aller discuter avec elle, d'engager la conversation, parce qu'il y a quelque chose qui se joue à ce moment-là. Autant ne pas attendre. Et puis y aller tout de suite. Ce que tu dis également, c'est que bah oui, bien sûr, le webinaire, il est là d'abord pour apporter de la valeur, poser son expertise, on montre de fait qu'on connaît notre boulot parce que on donne de la valeur. Mais là où tu dis que tu donnes encore plus de valeur, c'est pas tant sur la présentation. Toi, tu la faisais assez courte, 20 minutes. C'est surtout sur les questions-réponses parce que les questions-réponses, tu peux pas te cacher. T'as pas de présentation qui est déjà construite. Donc, si tu sais répondre à toutes les questions, c'est bien que t'es la bonne personne pour y répondre. Et ce que je trouve très intéressant pour toutes les personnes qui me disent « Non, mais moi, Estelle, parce que ça, j'entends ça très souvent. » Moi, je suis pas un vendeur, je suis pas une vendeuse, je trouve ça très, très dur de vendre, je suis mal à l'aise, c'est pas mon truc. Ben là, ce que tu dis, c'est que, à la rigueur, il n'y a pas besoin de vendre. On peut passer, par une étape de vente en webinaire, mais toi, finalement, tu disais, moi, je vendais pas, je laissais ça aux sales avant, après, ils faisaient ça quand ils voulaient. Là, ce qu'on posait, c'était, je suis la bonne personne pour répondre à ta problématique le jour où tu auras cette problématique. Et une fois que tu as inscrit ça dans l'esprit de la personne, de ton prospect, tu as fait quand même un énorme pas en avant. C'est beaucoup, beaucoup plus facile après pour l'équipe sales de venir closer. Et tu le disais d'ailleurs, c'était l'action marketing chez Partout qui accélérait le plus la signature. Donc, c'est bien ultra évident là-dessus. Et puis, je te posais ma dernière question, mais comment je fais pour avoir du monde, moi, Patrice, sur mon webinaire? Et tu dis, il faut activer un petit peu tous les leviers qu'on a, bien sûr, en parler à ses prospects chauds, aux gens avec qui on travaille, en parler finalement à toutes les personnes avec qui on peut être amené à interagir, poster sur LinkedIn, pourquoi pas. Et puis, tu disais, je trouve ça intéressant, se mettre des challenges, se dire, écoute, moi, sur celui-là, je veux qu'on ait tant d'inscrits et aller chercher un petit peu le côté compétition. Alors, si on peut y avoir du champagne ou du chocolat à la fin, c'est encore mieux, mais aller se mettre un objectif pour pouvoir aller trouver des nouvelles techniques. Et sachez que la moindre petite stratégie peut apporter quelques personnes, et ces quelques personnes, ça peut être des acheteurs. Tu le disais, toi, une fois, tu as eu que 2 personnes sur le webinaire, tu l'as fait quand même, et puis tu as eu une signature et une grosse signature, donc il faut y aller. Faut pas attendre d'avoir une grosse audience. En tout cas, on apprend de toute façon en faisant, et puis on devient à chaque webinaire, on est meilleur finalement, puisqu'on sait comment faire, on est plus assuré, et ça marche très très bien. Et tu le disais, toi, c'était la stratégie qui avait le meilleur ROI de loin, notamment parce que ça coûtait pas grand chose. Tu me disais au début 90€, je crois, par trimestre.
C'est ça.
Ça vaut la peine. Donc, a priori, c'est une bonne stratégie à tester. Moi, je vends aussi par webinaire, et je peux le dire, surtout pour les gens qui aiment pas vendre, finalement, c'est très confortable parce qu'on est dans son bureau, on est chez soi, moi dans mon studio. On peut avoir, tu disais, 2 personnes, 10 personnes ou 100 personnes. Finalement, on ne voit pas vraiment la différence. Donc, en ça, c'est assez confortable.
C'est ça.
Trop bien. Écoute, merci beaucoup, Patrice, d'avoir partagé tout ça. Je sais que le webinaire, c'est une stratégie qui est toujours un peu nébuleuse. Les gens viennent, en font un ou deux, ils se disent « bon, oh, comment je fais ?» Des fois, c'est intéressant, des fois, c'est ennuyeux. Très souvent, on s'inscrit, on n'y vient pas. Il n'empêche que c'est une stratégie qui fonctionne extrêmement bien et qui permet de vendre, mais je trouve que c'est vraiment intéressant ce que tu disais, qui permet aussi et surtout de faire de l'acquisition et d'installer une vraie relation avec les personnes, quand bien même on est loin, quand bien même on est en digital. Ça, c'est vraiment super, super intéressant, je trouve, à partager. Trop bien, Patrice. Écoute, merci encore d'être venu sur le
merci
podcast du marketing. Encore un épisode super complet, super concret. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent « Ok, demain, je m'inscris sur une plateforme de webinaire. » On va avoir 1000 webinaires qui vont sortir la semaine prochaine. Écoute, j'espère, parce que moi, j'adore ce format-là de webinaire. Je trouve que c'est ultra ultra utile. Patrice, si on veut en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur les webinaires, où est-ce qu'on peut te joindre, où est-ce qu'on peut te retrouver, dis-moi.
Oh, écoute, LinkedIn, c'est le plus simple.
Ok, écoute, je mettrai ton lien LinkedIn. Alors, vous pouvez chercher Patrice Barbezier, mais je mettrai le lien dans les notes de l'épisode avec grand plaisir. Allez chercher Patrice, allez lui poser des questions. Il vous répondra, il vous donnera toutes ses infos sur le webinaire. Trop bien. Merci beaucoup, Patrice.
Parfait.
Et le bienvenu.
Merci à toi.
Quand tu veux sur le podcast du marketing pour, j'espère, encore l'épisode de l'année. Écoute, on voit ça l'an prochain, fin 2024.
J'espère. Merci beaucoup, Estelle.
Ciao, Patrice.
Salut.
Un grand, grand merci, Patrice, d'être revenu sur le podcast du marketing pour nous donner tous tes conseils zéro budget et notamment bien construire un webinaire, travailler un webinaire, vendre grâce à un webinaire. C'est vraiment, moi j'adore cette stratégie, vraiment je le dis, je sais que c'est une stratégie qui peut faire peur, mais allez-y, foncez, essayez, vous allez voir que il va rien se passer, tout ira très très bien et au contraire, vous allez voir que vous allez pouvoir engranger des ventes et tout ça avec du naturel sans avoir des grosses stratégies. stratégies de vente très lourdos, c'est un peu compliqué. Donc, allez-y, testez le webinaire, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. Merci infiniment encore, Patrice, d'être revenu sur le podcast du marketing. Je l'ai dit, tu reviens évidemment quand tu veux pour nous partager tes super stratégies et notamment ces stratégies qui ne demandent pas de gros budgets. On adore ça. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez le podcast du marketing, eh bien, je vous invite à connaître les coulisses du podcast et une très bonne façon de le faire, c'est de rejoindre ma newsletter. Vous pouvez le faire sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je ne suis pas allée chercher très très loin. Qu'est-ce que vous retrouverez dans la newsletter? Vous retrouverez déjà presque 10 000 personnes parce qu'on est quand même une petite famille de 10 000. Donc j'en suis très très fière et très heureuse d'avoir ces personnes-là autour de moi. Chaque semaine, je vous envoie un email, en gros c'est ça, un email dans lequel je vous parle du prochain épisode ou du nouvel épisode du podcast du marketing. Et puis, je vous donne aussi mes bons plans, mes conseils, un petit peu aussi des histoires de ce que moi, je vis dans ma vie, boulot, un petit peu perso aussi. En fait, c'est vraiment mon chez-moi, ma newsletter. C'est là où je donne le plus de choses. Et évidemment, tous les cadeaux bonus du podcast du marketing sont sur la newsletter en accès gratuit. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.